Le meilleur de toutes les musiques et même le meilleur de tous les livres. Bonjour Aurore Pourny.
Bonjour Margot.
Comment ça va ce matin ?
Extrêmement bien.
En ce matin de presque rentrée littéraire.
Ah mais de complètement rentrée littéraire.
On est à fond dedans là.
On est complètement à fond.
C'est un petit peu l'objet de votre visite aussi ce matin.
Exactement.
Et vous êtes venue avec un carton.
Un carton, oui, je sais pas si je choisir.
Plein.
Et encore, bon évidemment j'ai juste une petite sélection parmi les 500 romans qui paraissent là ces deux prochains mois. Évidemment, le bal a été ouvert par le fameux Amélie Nothomb qui sort chaque année. Donc ça y est, elle a ouvert le bal depuis le 19 août. Donc c'est parti, énormément de nouvelles parutions, de nouveaux titres, des gros mastodontes de la littérature, mais aussi de grosses découvertes. Alors je vais pas vous embêter avec tous les chiffres et des données, parce que bon, je trouve que ça a pas trop de sens qu'il y ait 500, 600 ou 400 romans qui paraissent en deux mois. Finalement, ça change pas grand-chose puisqu'on ne les lira pas tous. Et que aucun...
C'est 511, je crois, précisément.
Oui,
cette
mais
année,
alors encore c'est... une fois, oui, c'est un filtre sur nos bases de données qu'on utilise en tant que professionnel. Donc, je ne suis même pas sûre qu'un être humain ait vraiment compté les livres qui paraissent là dans les romans qui paraissent ces deux mois-là.
Voilà. Est-ce que, Aurore, juste avant qu'on s'intéresse à votre petite sélection d'aujourd'hui, enfin votre large sélection d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez jeté un œil au Nothomb 2020 ?
Je jette toujours un petit... Là, j'ai jeté un œil, oui, les aérostats. Mais moi, je trouve que Amélie Nothomb est vraiment quelqu'un d'exceptionnel.
Oui,
on la suit. Bah, alors, en tant que libraire, on la suit. On les lit pas tous parce que... et encore, je suppose qu'il doit y avoir énormément de monde qui les lit tous. Mais bon, ça fait un livre par an. C'est lu assez rapidement. Et j'en ai quand même lu 4 ou 5 d'Amélie Nothomb. Et c'est vraiment... C'est toujours bon, c'est un personnage, elle-même est un roman et bon, moi je trouve que c'est une personne exceptionnelle. Je ne les lis pas tous parce qu'évidemment je veux aussi lire d'autres livres. Et puis bon, Bunel l'aura lu et énormément d'autres médias l'auront lu. Mais bon, je l'adore en tant que personne et bon.
Et le 2020 est prometteur ?
Le 2020, mais oui, il l'est, forcément. Elle me fait vraiment marrer, je l'adore.
Je vois ce qui peut vous faire marrer.
Ben oui.
Alors je vous en prie, annoncez-nous la couleur de cette rentrée littéraire 2020. Qu'est-ce qu'il faut lire absolument ?
Alors, qu'est-ce qu'il faut lire ? Mais j'en sais rien, il y en a tellement, tellement plein. Voilà, là j'en ai ramené peut-être une vingtaine. Alors je ne vais pas parler des vins, c'est tous les vins que j'ai au moins commencé, voire certains finis. Et encore, je n'ai pas tout amené. On peut parler rapidement de... au moins de ces auteurs. Alors je pense que je vais quand même m'attacher là à parler de la rentrée littéraire française. Il y a déjà énormément de quoi faire. Je suppose qu'Anthony viendra ici vous parler de Betty de Gallmeister.
Ouais.
Je viendrai aussi parler parce que j'ai un projet caché depuis que je suis libraire, depuis une quinzaine d'années, c'est de tenter de lire tous les livres que traduit Claro. Mais c'est un surhomme. Claro doit être plusieurs. Il doit être plusieurs pour traduire et écrire autant de livres. Donc là, il y en a au moins deux dont j'ai lu les traductions et sont absolument géniaux. Il y a La femme intérieure de Hélène Phillips et il y a également Adam Erlich-Sachs, Le ciel et les yeux fermés aux éditions L'Inculte, voilà, que j'ai lu et je viendrai vous en parler. Il y a aussi le Eduardo Fernando Varela, Patagonia, route 203, que j'ai commencé parce que... parce que j'adore la Patagonie, donc je me suis lancée là-dedans. Donc je pense que je viendrai en parler plus précisément. Là, je vais peut-être m'attacher à la rentrée littéraire française, qui est déjà assez énorme, et je laisserai un petit peu de place aussi à Anthony et aux Romains, qui vont avoir énormément de choses à nous raconter aussi. Alors après, on peut parler de ces auteurs dont on va beaucoup parler, dont on attend énormément, notamment au niveau des prix. C'est pour ça que cette rentrée littéraire existe. C'est parce que d'ici deux mois, il y aura énormément de prix littéraires. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de romans qui paraissent là. Donc on ne peut pas parler de rentrée littéraire sans parler des fameux auteurs qui peuvent avoir un prix. Donc dans notre liste très très raccourcie de équipe. On espère que, par exemple, Serge Joncourt, avec Nature humaine aux éditions Flammarion, en aura un. C'est le roman de toutes les confrontations, confrontation avec la nature, avec les générations, confrontation politique également. Je dois vous parler aussi d'Alice Fernet, qui est vraiment sublime. Le titre, ça, c'est Intimité, aux éditions Actes Sud, où les questions de deuil et de paternité. Alors, la paternité vue par une plume féminine, c'est vraiment très, très beau. Donc, je vous conseille aussi Alice Fernet. On espère qu'elle sera sur le devant de la scène aussi. Je peux vous parler aussi d'Alice Zeniter. Alors, je vais enchaîner beaucoup.
Ouais,
faudra pas hésiter à venir.
Zeniter, bah,
oui.
Parlons d'Alice Zeniter.
Alice Zeniter, qui est vraiment aussi exceptionnelle, comme un empire dans un empire, aux éditions Flammarion.
Prometteur, tellement prometteur comme nom. Tellement prometteur parce que c'est Alice Zeniter, ce titre et tout.
Allez-y. Bah, alors, j'en parle très, très rapidement. En plus, il est aussi question de combat politique. Qu'est-ce qu'on peut faire quand l'ennemi est tellement gigantesque, quand on est juste assistant parlementaire ou une hackeuse surveillée, bien surveillée. Qu'est-ce qu'on peut faire devant cet ennemi ? Bon, ben déjà, se rencontrer, c'est déjà pas mal. Et c'est vraiment... j'espère qu'elle aura aussi cette partie médiatique importante, mais à la librairie, on sera là aussi pour la soutenir. Alors, il y a beaucoup de parutions ayant pour thème la politique, le politique en général. Il y en a beaucoup, parce que Eric Reinhardt, comédie française aux éditions Gallimard, qui est vraiment exceptionnel, une espèce de construction un peu provocante, un peu déconcertante, mais où il est question aussi, on critique le politique et le poids du lobbying en France. C'est vraiment un thème, il me semble, récurrent là dans cette rentrée littéraire. Je peux parler aussi de Petit Mangin. C'est un premier roman où il est aussi question de politique. Le titre, c'est « Ce qu'il faut de nuit » par Laurent Petit Mangin. Il est aussi dans les sélections radio. Alors, je ne sais plus si c'est France Culture ou France Inter, faut m'excuser, mais il est dans l'une de ces deux sélections-là, en premier roman, où il est aussi beaucoup question de politique, mais là, entre un père et son fils, quand on choisit deux bords politiques différents, ça peut briser aussi des familles. Voilà, c'est vraiment un thème, là, en regardant un peu de plus près tout ce qui paraissait sur cette rentrée littéraire, le politique est toujours... là, il est assez récurrent, en plus de la fameuse figure du père ou de la figure de la mère, qui sont quand même des thématiques qui reviennent souvent en rentrée littéraire. Après, bon, je veux bien aussi m'attacher à vous parler des découvertes. Avant de vous parler des découvertes, aussi en grosse, grosse parution qu'on a beaucoup aimé, il y a Franck Bouys, qui fera la première de Buñuel là, la semaine prochaine, qui s'appelle Les buveurs de vent aux éditions Albin Michel. Alors, on avait adoré, j'étais venue vous en parler déjà il y a un an de ça, du titre Né d'aucune femme, qui était absolument époustouflant. Là, il est toujours dans ce même registre, des questions de ruralité et d'emprise psychologique, beaucoup. C'est sombre et magnifique. Et voilà, on en parlera là sur la 5 la semaine prochaine. Et également, dans cette même émission, avec Amélie Nothomb, qui fait toujours, évidemment, elle ouvre le bal aussi de Buñuel. Il y aura Julia Kerninon, que j'adore et que je suis. Et là, son roman qui s'appelle Liv Maria, aux éditions L'Iconocalaste. Il est encore question d'une femme, Liv Maria, un personnage complètement irradiant et complètement incarné. C'est vraiment un portrait étonnant. Et encore une fois, le secret et le poids des secrets est le thème central de ce roman et j'ai vraiment beaucoup adoré. Mais on en entendra beaucoup parler sur les médias, donc je ne vais peut-être pas m'attacher à en parler plus précisément là. Il y a eu énormément de découvertes aussi.
On fait une petite pause musicale.
Allez, on peut se faire une pause musicale. Que je reprenne mon souffle.
Là, vous enchaînez.
Oui.
On se fait une petite pause musicale et puis on revient pour les découvertes de cette rentrée littéraire.
Oui.
MDM, on écoute et on se détend.
Did you see me?
What you fucking talk about, Willis? Fucking stupid hoe.
Cause I know the north side is looking out for me. I wanted to cry, but there's nothing that made me. But when
in circles, I thought I was really finished. Guess so, how will I stop fucking with it? Peace, earth, you don't say. Can you tell what model they use? Explain the soil change. Don't praise that the heart remade. You fly to hold your name in the same city. I remember when you packed bags at Sainsbury's. Loving on me cause I got your best. Find me to your home, it seems like I got your stress. Wouldn't say no, but I caused your push it down around me. Settle for more, yeah.
Like, tell the truck up. In someone's yard, didn't it? You see me like, yeah. Nice to meet you, like on a respectful thing. Where should I leave the shoes?
Either way, you complain. I still work a 9 a day. Understand your awful shame. I was once the same damn way. But your fate damned and lately. I've been missing mine for taking all your safety. Put your loving on me cause I got your best. Find me to your home, it seems like I caused your stress. Wouldn't say no, babe, I caused your push it down around me, settle for more, yeah.
When your name's Fendi, like, it's like being English and being cool, like, I don't know, Harry or Philippe, you know? Not even Philippe, bro, because you got all them Philippe things and that.
The north side is looking out for me. Wanted to cry, but there's nothing that made me. Going in circles, I thought I was really finished. Yeah, so how will I stop fucking with it? Cause you know the night day becomes a quiet place. The last thing I remember is the night or day. The north side is with me even in LA. Which one do you prefer? Well, I can choose another thing. You're right, I might have packed too much this time. You know that I go missing, they don't worth another fight. Can't cut me off, I won't obey. I can lie, I wanna stay.
It's when you shouted Sainsbury's, man, got a little emotional still.
Put your loving on me cause I caused your best. Find me to your home, it seems like I caused your stress. Wouldn't say no, babe, I caused your. Push it down, run on me, settle for more, yeah.
Sometimes it's about finding the magic in them things, you know? It's a vibe, it suits your words there as well.
Actually sounds pretty good now.
This is hot.
The north side is looking down for me. Wanted to cry, but there's nothing that made me. Going in circles, I thought I was fucking finished. Got so high, will I stop fucking with it? The north side is looking down for me. Wanted to cry, but there's nothing that made me. Going in circles, but that won't break my spirit. Got so high, will I stop fucking with it?
Elle s'appelle Amalou.
Le savoir-faire d'une grande maison au service de la tradition. Rillettes Radio MDM, le canard est une force.
N'importe quoi. Et après cette petite tranche de rillettes, revenons à notre rentrée littéraire avec vous. Aurore Pourny, pour parler des nouveautés, des plutôt nouveautés. Des découvertes.
Ah oui, le canard est une force, mais ouais. Le livre aussi. Hein.
Le livre est une autre.
C'est excellent, j'adore. Oui, les découvertes, oui, parce que je laisserai aussi le soin à Romain de parler des maisons d'édition qu'il affectionne tout particulièrement, où le littéraire est vraiment au cœur de leur production, donc il parlera des POL, éditions de minuit. Donc je lui laisserai le soin de parler de Yoga, de Carrère, par exemple, parce que c'est des maisons d'édition qu'il suit de très, très près, ou Rollin aussi, qui est sur les listes et qui est vraiment très très bon. Il en parlera lui-même, j'espère, Romain, si tu nous écoutes.
Voilà. Tu as intérêt de nous écouter, Romain.
Tu auras intérêt d'en parler. Mais c'est, je sais que c'est des maisons d'édition qu'il suit beaucoup et qu'il aime tout particulièrement. Donc, je lui laisserai le soin d'en parler. Moi, pour mes grosses découvertes là de cette rentrée, je vais vous les citer vite. Fait, parce que je pense que je reviendrai en parler. Il y a notamment Vladivostok Circus de Elisa Choix du Sapin, c'est son troisième roman.
Ce titre me plaît aussi.
Oui, la couverture est aussi magnifique. On est à Vladivostok entre deux saisons de cirque, il y fait froid, on y suit un trio de barres russes. Vous savez, cette barre où il y a deux porteurs, la barre est un peu souple et il y a en général une femme qui vient et qui fait des pirouettes sur cette barre. Donc, il est question beaucoup de... de confiance en toute l'équipe. Et l'auteur, Elisa, met tout, et ça c'est assez exceptionnel, tout est dans les non-dits et dans les silences, dans les interlignes, et c'est absolument sublime. J'ai adoré ce petit roman qui fait moins de 200 pages. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les gros pavés, donc je me suis laissée embarquer dans ce tout petit roman. J'ai beaucoup aimé également, je pense que je vais pas en parler d'autres parce que sinon... ça va prendre des heures. Trincadis de Caroline Daines, paru aux éditions Kidam Éditeur, où il n'est question que de Nikit Saint-Phal. Nikit Saint-Phal qui est mon artiste, je l'adore. J'ai découvert ça pendant mes années de fac en Beaux-Arts et j'adore cet artiste vraiment. Donc je suis ravie qu'il y ait enfin un livre sur elle. Alors elle n'est pas la narratrice de ce roman, c'est un roman choral qui parle de qui donne du coup la voix à des personnes qui peut ou auraient pu la côtoyer de près ou de loin, donc ce qui forme un portrait de Nikit Saint-Phal sans que elle ne soit jamais la narratrice du roman. C'est vraiment
donc là, c'est
étonnant.
Un espèce de roman biographique, comment?
Oui, parce que ça reste sa vie, ses blessures, ses choix, ses positions qu'elle a pris tout au long de sa vie. C'est un personnage qu'on a découvert, qui s'est dévoilé tout au long de sa vie par la création notamment. Alors je ne sais pas si vous situez, c'est ces femmes toutes rondes. Elle a beaucoup travaillé avec Tinguely, donc on la voit beaucoup à Pompidou. Voilà, vous avez forcément vu les sculptures des femmes de Nikit Saint-Phal. Donc Caroline Daines, Trincadis, paru aux éditions Kidam. Je viendrai, je pense, vous en parler plus spécifiquement.
Avec grand joie.
Donc il y a un dernier roman. Là, je vais quand même m'attacher à vous parler de ce premier roman de Fabrice Capizzano, paru aux éditions Au Diable Vauvert, qui s'appelle La fille du chasse-neige. C'est un roman étonnant. C'est une histoire d'amour pour ceux qui n'en lisent pas, comme moi. Je ne lis pas vraiment. Quand on me dit c'est un roman, une histoire d'amour en général, il faut vraiment me convaincre pour que j'y aille.
Vous fouillez l'histoire d'amour?
Oui, parce qu'en général, ça finit toujours mal. Donc, on sait déjà la fin du roman.
Donc... Que d'optimisme, jeudi matin.
Mais oui, donc, j'en perds mon latin. La fille du chasse-neige. On suit Marie. Enfin, on suit d'abord Tom, qui est le héros. C'est un homme désœuvré, un petit peu, qui est complètement mélomane, complètement auto-centré. Il n'a aucune idée de comment le monde le perçoit. C'est le lecteur qui s'en rend compte petit à petit, qu'il se fourvoie sur lui-même ou comment on le conçoit lui, qui va tomber éperdument amoureux de Marie, Marie apicultrice. Alors je vais vous lire leur rencontre à tous les deux, si vous voulez bien.
Avec plaisir.
Petit passage, c'est vraiment le début du roman. Maman était à l'hôpital. Il disait qu'elle allait s'en sortir, que ça avait été moins une de quoi, le bassin cassé. Le pire, c'était surtout le traumatisme crânien. Il y avait eu du sang partout et ça avait été long pour que les secours arrivent à cause de la neige. Le chasse-neige qui avait ouvert la route aux pompiers, on avait cru rêver quand on avait vu l'engin rentrer dans la cour de la maison avec cette fille en débardeur qui était à l'intérieur. « Non, non, tu ne rêves toujours pas », m'avait dit Lucille. Elle était magnifique avec ses cheveux noirs, courts. Je n'ai vu qu'elle quand elle attendait dans son bolide chenillé que les pompiers finissent et qu'elle puisse à nouveau ouvrir la route jusqu'à la nationale. Je l'ai vue bouger les épaules en rythme, alors je me suis dit qu'elle devait écouter la radio. Du coup, j'ai allumé la nôtre. Et, comme ici on n'en captait qu'une, je ne pouvais pas me tromper. Je l'ai regardée danser tout le long de Don't Stop Till You Get Enough de Jackson, et j'ai su qu'on était sur la même longueur d'onde. Elle avait la classe, elle avait le groove, elle était dans l'instant et ça m'a bouleversée. Alors, dans une espèce de parfaite normalité, je suis tombée amoureuse de la fille du chasse-neige. Voilà. leur rencontre, enfin leur non-rencontre, puisqu'elle va, elle va partir. Voilà pour l'histoire, l'histoire d'amour. Enfin voilà, non, parce que il va y avoir énormément de rebondissements.
Oui, parce que celui-là, c'est pas un petit roman, celui-ci.
Non, celui-là, c'est pas un petit. Oui, il fait c'est 500 pages réglementaires pour finir sur ma pile de livres. Mais alors, au-delà de l'histoire d'amour, c'est vraiment la galerie de personnages, tous aussi loufoques les uns que les autres, qui suivent et qui entourent ces deux personnages. Moi, c'est des personnages qui me font beaucoup penser à John Irving, que j'adore, parce qu'ils sont tellement irréels et fous qu'ils en sont finalement normaux. Ils sont tous énervants, complètement instables, un brin mystique, et voilà, on l'est tous, et c'est pour ça que je les aime. Alors, un confrère libraire compare ce roman à Chris Offutt ou Pete Fromm, qui sont deux auteurs qu'aiment Anthony et Romain. Donc, j'espère qu'ils le liront et pourront aussi comparer. Moi, je compare à John Irving, que j'adore. Il y a beaucoup d'empathie dans chacun des personnages, même s'ils sont sur la ligne, un brin en marge, tous comme... un peu, enfin, ils le sont complètement. Il y a aussi beaucoup de questions de musique, parce que Tom est donc musicien. Il deviendra peut-être, sans trop vous en dévoiler, une rockstar, si toutefois son manager, qui est complètement barré, en est vraiment un. Ça, je ne vais pas vous raconter non plus. Et sur la forme, l'écriture est vraiment étonnante. C'est un style très coloré. Il use et abuse de la comparaison, mais des comparaisons complètement loufoques, comme les personnages. Donc voilà. C'est un roman qui conjugue la passion, la famille et les aspirations, comme on essaye tous, tout un chacun de le faire. Et c'est comment ces personnages-là vont ou pas n'y arriver. Parce que c'est aussi le roman d'un pétage de plomb. Je ne vais pas, évidemment pas vous dire quand ni où, parce que moi, ça m'a vraiment claqué. J'étais en train de lire une histoire d'amour et je me suis pris une grosse claque à un moment. Donc je vous laisse aussi la surprise. Et c'est aussi le roman de comment fait-on pour regarder ses démons, parce qu'on en a, on en a tous. Voilà, La fille du chasse-neige de Caprice Capizzano. Je me suis régalée. C'est romanesque et étonnant.
J'ai une petite question, Aurore.
Oui.
Comment vous faites pour choisir parmi ces centaines de livres qui sortent ceux que vous avez envie de lire et ceux que vous n'avez pas envie de lire ?
Alors, c'est pas moi qui les choisis, c'est les livres qui me choisissent, et c'est pour ça que j'en commence plein chaque jour. Chaque jour, j'en commence au moins un parce que j'ai envie de le lire. Et en fait, la surprise vient du fait que je le finisse ou pas. Comme j'en commence au moins un tous les jours, forcément dans le lot, il y en a que je finirai pas. Et forcément, il y en que je vais ouvrir et ne pas fermer d'un coup. Et c'est là où je sais que c'est du bon livre. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec Vladivostok Circus. Je le commençais pour savoir de quoi il en était question, pour essayer d'embrasser toute la rentrée littéraire. Et je me suis surprise à le finir. Donc c'est vraiment les romans comme ça qui me choisissent. Après, on fait aussi un gros travail de sélection avec... les représentants des maisons d'édition en amont, les maisons d'édition qu'on aime, qu'on suit, Le Diable Vauvert, Zoé ou Kidam Éditeur, c'est des éditeurs qu'on suit, qu'on aime, qui font vraiment un travail éditorial qui correspond à la ligne qu'on a envie de défendre. Donc ceux-là, on va les regarder plus précisément. Après, tous les autres, c'est vraiment une question qui revient souvent. Comment on choisit nos livres? Faudrait que je vois si on n'a pas écrit là-dessus, parce que psychologiquement, je pense qu'il y aurait de quoi dire. Celui-ci précisément, c'est l'éditeur qui nous a dit: je vous connais et ça va vous plaire. Allez, ok, on va voir. Et je me suis surprise à le commencer et à le finir.
Il y avait aussi, il me semble, une question d'une certaine page.
Ah, la page 112. Oui, le prix de la page 112. C'est mon prix littéraire préféré, qui est le prix de la page 112. Donc c'est un prix qui ne récompense que les meilleures pages 112, sans se préoccuper ni de ce qu'il y a avant ni de ce qu'il y a après. Ceux qui ont créé ce prix-là partent du principe que, en général, à la page 112, les personnages sont installé, on est au cœur de l'intrigue, on est même dans ce que nous on appelle le ventre mou du roman. Donc si cette page-là est intéressante dans ce ventre mou, c'est que forcément tout le reste doit l'être aussi, et du coup on peut s'attacher au style plus que au contenu aussi. Donc oui, je regarde souvent les pages 112, c'est juste pour voir si la plume me plaît. Si ça ne me plaît pas, il y a quand même peu de chances que je commence le livre. Effectivement, c'est un de mes critères de sélection qui fait bien marrer. Moi, ça me fait marrer aussi. Voilà, mais c'est pas gage de qualité de tout le roman, évidemment.
Merci pour ces petits tips et ces conseils de lecture de rentrée, Aurore Pourny.
Merci.
Et à très bientôt à la librairie Caractère.
Mais oui, à bientôt.
Merci Aurore, salut.